L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique de l'Esprit public au cours de laquelle nous allons nous intéresser aux questions qui touchent à la gouvernance monétaire mondiale. Nous, c'est-à-dire Nicole Nisotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Et pour développer notre intérêt sur cette question, nous recevons Jacques Mistral. Jacques Mistral, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entre autres conseiller spécial à l'Institut français des relations internationales. Vous êtes économiste, vous êtes professeur, ou vous l'avez été à l'université Harvard. Vous avez été aussi professeur à Nankin. Et vous avez mené une carrière qui est allée du professorat à la haute fonction publique en passant par l'entreprise. Merci donc d'avoir accepté notre invitation à réfléchir sur la gouvernance mondiale. La situation de l'économie mondiale pourrait sans doute être décrite comme un désordre globalisé. Volatilité des taux et des changes, instabilité du système financier et bancaire, déséquilibre entre les balances des paiements, croissance en berne, crise des approvisionnements en énergie et en matières premières, aggravation spectaculaire des inégalités, autant de facteurs de tension et d'incertitude. La mondialisation n'est pas une expérience nouvelle, aimez-vous à rappeler. Mais elle pourrait bien échapper désormais à toute forme de régulation. Dans votre livre « Guerre et paix entre les monnaies » paru il y a 2 ans, vous soutenez que le XXIe siècle verra s'établir un système post-hégémonique qui devra faire face à 3 enjeux majeurs, la place qu'occuperont les États-Unis dans le monde, l'organisation d'un monde multipolaire dominé par quelques grands acteurs qui cherchent chacun à maximiser leurs intérêts, et l'hétérogénéité d'un monde qui remet en cause la modernité occidentale. Leadership affaibli, choc des intérêts nationaux et concurrence des systèmes et des valeurs sont les données incontournables de l'élaboration d'un système nouveau, multilatéraliste et ambitieux, celui que vous appelez de vos voeux. Qui dit gouvernance mondiale dit système monétaire international. À vos yeux, les défauts majeurs de l'actuel système sont notamment l'excès de liquidité venant des États-Unis, la volatilité des taux de change ou l'incapacité à contenir le chômage et l'exclusion des classes populaires. Vous nous direz comment, à votre avis, ce système monétaire international peut être réformé, voire refondé. Mais dans un article intitulé « La France en faillite » publié en 2010 dans la revue Le Débat, vous évoquiez les difficultés historiques propres à la France à trouver sa place dans tout processus de mondialisation, les difficultés, je dirais, et aussi les réticences. Vous en tiriez des conclusions inquiètes quant à la capacité de notre pays à repartir dans un cycle de croissance durable dans les années à venir, après la fragilité persistante de notre économie constatée lors de la décennie écoulée. Nous vous interrogerons sur votre diagnostic 6 ans plus tard, mais peut-être voudrez-vous commencer par revenir sur l'ancienneté de ce phénomène que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Jacques Mistral.
Oui, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation. Je suis très sensible au fait que mon livre ait retenu votre attention. Pourtant, les questions monétaires internationales sont, il faut bien le dire, très, très techniques. Elles s'entrent assez rarement dans le débat public et le plus souvent dans des situations de crise. Les auditeurs en ont certainement quelques-unes en mémoire. Elles ont touché un peu toutes les monnaies. Il y a eu des crises monétaires sérieuses à propos du dollar, à propos des monnaies européennes, avant la construction de l'euro. Avec l'euro, quelques mois après sa création, où il a semblé voué à plonger à des niveaux extrêmement bas, il y a eu des crises monétaires dans nombre de pays émergents, et on pense assez naturellement comme exemple à l'Argentine. Mais, voyez-vous, il y a une chose frappante depuis 2007-2008, depuis le début de ce qu'on appelle la crise financière. Cette crise a eu de nombreux volets. Il y a eu une crise de la dette privée, une crise bancaire, une crise des dettes publiques en Europe. Il y a le chômage persistant, ouvert comme en Europe, ou latent, caché comme aux États-Unis. Il y a donc un très grand nombre de crises. Et il n'y a pas de crise monétaire internationale. La monnaie internationale semble être restée une zone de relative tranquillité. Bien sûr, il y a la volatilité courante, je dirais, des changes que vous évoquiez, mais prenez par exemple l'euro. Pendant la période de crise ouverte des dettes entre 2010 et 2012, l'euro est resté parfaitement stable et même à un niveau assez fort. Un euro a toujours acheté 1,32 dollars. Pourtant, on entend souvent évoquer l'expression « guerre des monnaies », « guerre monétaire ». Pourquoi ? C'est, je crois, le ministre brésilien des Finances qui a le premier utilisé cette expression en 2010 à la suite du changement de politique monétaire américaine lorsque Ben Bernanke avait amorcé la politique dite de quantitative easing, de relâchement monétaire, qui avait soumis les monnaies des pays émergents à des chocs externes. L'an dernier, pour ne citer que ces deux exemples, l'an dernier, on a eu peur que la Chine ne s'engage dans une guerre monétaire avec la dépréciation du renminbi. À mes yeux, ces événements sont parfois importants, mais restent des escarmouches sur le plan monétaire proprement dit. Qu'est-ce en effet que la guerre des monnaies ? J'en vois deux lignes de front principales. Une qui consiste pour un pays à répudier ses dettes. L'autre a pratiqué une politique de dévaluation agressive. Alors, pour retrouver des exemples de ces politiques, on peut penser pour la répudiation de la dette à l'Argentine, il y a une douzaine d'années, et pour la manipulation monétaire au Japon, à travers la politique dite Abenomics. Mais aucun de ces événements n'a eu de conséquences systémiques. Or, c'est à cela qu'on reconnaît une guerre monétaire. C'est que quand on s'engage dans la guerre, évidemment, il faut s'attendre à des représailles. Et ces représailles, c'est l'aspect dangereux, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu dans les années 30, elles s'enchaînent les unes les autres et elles plongent l'économie mondiale dans la catastrophe. C'est un mécanisme un petit peu hobbesien de la guerre de tous contre tous. Alors, nous n'en sommes pas là. C'est pour ça que j'évoque cette comparaison. Nous ne sommes pas là. Je disais tout à l'heure que nous étions encore en période de relative paix monétaire, en période aussi de relative paix commerciale. Et ces deux éléments sont la toile de fond qui a fait la croissance de l'économie internationale, le progrès de la mondialisation depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'où les questions que je pose dans mon livre. Peut-on revenir à la guerre ? La réponse courte est oui. Est-ce inévitable ? La réponse est non. Et justement, le 21e siècle sera celui qui décidera si nos actions nous permettent d'éviter ces guerres.
Nicole Nisotto.
Moi, j'ai une question qui est à la fois technique et politique. Pour prévenir justement ce risque de guerre entre les monnaies, vous appelez de vos voeux une gouvernance mondiale plus organisée, plus régulée, plus efficace, plus légitime, et en particulier concernant le FMI, vous en appelez à une modification des quotas des pays émergents, par exemple, de fait que la Chine et la France soient à peu près au même niveau aujourd'hui, est effectivement tout à fait étonnant et presque pas normal. L'augmentation du rôle du directeur, la création d'un conseil des ministres. Donc vous appelez à énormément de réformes de nos institutions internationales, justement pour créer une autre gouvernance capable d'anticiper ces guerres des monnaies. Et curieusement, dans la réforme du FMI, vous n'en appelez pas à un siège unique de la zone euro. C'est-à-dire que, alors que vous êtes un Européen convaincu, vous êtes même, si je peux dire, un militant de l'intégration européenne, et j'ai été frappée par cette absence de légitimité pour vous de la zone euro dans les institutions monétaires internationales. Est-ce qu'il y a une raison purement technique ou est-ce que la politique joue derrière ?
Jacques Mistral.
Alors, écoutez, on commence par une question tout à fait pertinente et sur laquelle j'aurais plaisir à m'étendre. N'oubliez pas que ce livre a été écrit au lendemain des troubles de la zone euro en 2012, 2013, 2014. Il est publié en 2014. La zone euro se débattait alors avec des problèmes tout à fait urgents et pressants. concernant son organisation. Elle a trouvé, à cette époque, elle a trouvé des solutions, puisque à partir de juin 2012 a été décidé par le Conseil européen la mise en route du processus dit des quatre unions, qui a eu des retombées positives, en particulier assez rapidement, plus rapidement que beaucoup ne le pensaient, dans le domaine de l'union bancaire, même si on est encore loin du compte. Alors, voilà la réponse courte à votre question. C'est pas par envie de plaider pour cette orientation. Je pense qu'elle est inscrite dans les astres et que si le scénario positif que je décris se concrétise pas à pas, à un moment ou à un autre, effectivement, elle reviendra à l'ordre du jour. Cette question a été posée dans le temps. Si ma mémoire est bonne, c'est Dominique Strauss-Kahn qui l'avait introduite. Et je pense qu'elle a, elle fait parfaitement, elle a du sens, c'est évident. J'ajouterai juste une petite précaution, c'est que pour prendre cette initiative, il faut que nous, Français, soyons en mesure d'avoir l'autorité dans les affaires européennes qui fait que notre voix sera écoutée. Or, puisque vous évoquiez aussi la situation française, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais je crains que depuis une douzaine d'années, le crédit de la France pour défendre des propositions audacieuses comme celle-là se soit atténué plus que renforcé par rapport à l'époque où Dominique Strauss-Kahn l'avait introduite au tournant du siècle.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, c'est un immense sujet que celui que nous abordons avec vous. J'ai le sentiment, quand on regarde effectivement l'évolution historique du siècle passé, que les deux grands problèmes qui étaient posés en matière de mondialisation étaient des problèmes de barrières tarifaires d'un côté et de valeur de change de la monnaie. Les deux choses étant liées, puisque à travers les manipulations de change, la guerre des monnaies, justement, on arrivait à créer des obstacles équivalents à des droits de douane. Bon. On a l'impression aujourd'hui que sur ces deux fronts, les choses se sont atténuer que c'est plus le véritable enjeu. Peut-être est-ce une erreur, c'est ma première question. On a l'impression, quand on regarde les négociations autour du TAFTA, autour de choses comme ça, qu'au bout du compte, il y a un effondrement qui a été progressif depuis la Seconde Guerre mondiale des barrières douanières, à travers négociations après négociations, dans le GATT, puis dans l'OMC, et qu'aujourd'hui, on a simplement, en matière de barrières tarifaires, on a simplement quelques luttes sur des pics. Hein, Mathilde Lemoine citait l'autre jour, il y a les yaourts qui sont très très taxés aux États-Unis, les importations de yaourts, et il y a la viande en France. Alors étonnez-vous que ce soit les éleveurs qui en France protestent avec le plus de véhémence contre le TAFTA, et en Amérique les marchands de yaourts. Bon, mais c'est quand même très très secondaire. Et quant à la valeur de la monnaie, on a effectivement eu ce sentiment très fort que vous avez évoqué l'année dernière, que les Chinois pourraient peut-être faire une politique de mise en cause. Et on s'aperçoit que, en réalité, ça ne tente pas vraiment les gens, sans doute parce que les processus de production sont tellement intégrés et multilatéralisés que, en fait, on se tire toujours un peu sur les pieds quand on mène telle ou telle politique. Et du coup, on a déplacé le débat vers autre chose, qui est, sur le plan commercial, la guerre des normes, avec tous les problèmes d'enjeux de la mondialisation, en termes qu'est-ce que c'est qu'une régulation des normes par la communauté internationale, compte tenu du caractère quand même assez chaotique de cette communauté. Et deuxièmement, le problème des liquidités, c'est-à-dire du quantitative easing. Est-ce qu'on continue à déverser de l'argent, à avoir des taux d'intérêt nuls ou négatifs? Et donc, le débat, c'est profondément déplacé. Et je voudrais que vous nous disiez si ça vous paraît quelque chose de durable ou si on ne va pas revenir aux fondamentaux traditionnels et en plus que ça a comme conséquence que comment on peut appréhender ces nouveaux enjeux.
Jacques Mistral.
Alors sur le plan commercial, je crois que vous avez fort bien résumé la situation. Les enjeux tarifaires ne sont plus d'une grande actualité, à part les pics. Donc il y a toujours peut-être des évolutions à organiser, une négociation à faire, et sur les questions tarifaires, il est assez facile de mesurer les avantages et les inconvénients. Et c'est pour ça que les négociations, elles ont toujours pris du temps, elles se sont toujours heurtées à beaucoup d'obstacles, mais elles ont abouti parce que, à la fin de la négo, les diplomates étaient en mesure de présenter au gouvernement et les gouvernements aux opinions publiques une balance équilibrée. La difficulté dans laquelle nous nous trouvons, que vous avez identifiée, c'est celle qui repose sur les normes, qui sont différentes d'un continent à l'autre. Je dirais qu'il y a deux types de normes. Il y a celles pour lesquelles on pourrait appliquer la méthode des négociations tarifaires. Et puis, il y a des normes qui sont beaucoup plus difficiles à harmoniser. Dans le premier cas, je pense à ce qui concerne la réglementation des automobiles. Personne ne peut croire que le fait de réglementer différemment les pare-chocs, les lumières, les volants, les compteurs de vitesse soit un enjeu de sécurité important. Et donc, il est vrai que, à propos de normes de second rang, si je puis dire, comme celle-là, les industriels ont raison et donc les consommateurs du monde entier auraient intérêt à ce qu'on progresse dans cette direction et qu'au fil de négociations comme d'Uruguay, Raoul et d'autres, on aboutisse à une étape où cela serait fait. Les normes les plus sensibles, et vous avez cité des produits agricoles ou agroalimentaires, mais il y a d'autres domaines, il y a évidemment tout de suite les questions sanitaires qui soulèvent les mêmes difficultés, reflètent des préférences collectives qui plongent, vous êtes plus compétent que moi pour en parler, les économistes ne sont pas les mieux à même de diagnostiquer le tréfonds des âmes des peuples, mais on sait que les obstacles sont...
Par les prêtres, personne n'y parvient.
Voilà.
Les prêtres même.
Alors, donc là, il faut, à mon avis, procéder avec une certaine prudence. Et c'est ce que je regrette dans la façon dont a été engagé le TAFTA, ce qui est la négociation sur le traité transatlantique, et ça me permet d'élargir un tout petit peu la discussion. D'où vient cette idée de traité? À mon avis, et je marche sous le contrôle de François Bugeon, elle vient des Allemands, et plus précisément de l'industrie manufacturière allemande. Pour quelle raison? Les Allemands ont construit leur compétitivité depuis un siècle, en particulier sur des normes techniques très exigeantes, qui sont devenues des standards mondiaux, et ils sont aujourd'hui menacés par l'industrie chinoise. Et donc, l'objectif de l'industrie manufacturière allemande était clairement de procéder à une harmonisation des normes techniques comme celles qu'ils avaient faites eux-mêmes il y a plus d'un siècle et grâce à la taille du marché transatlantique d'imposer en fait aux Chinois ces normes nouvelles plutôt que d'avoir prochainement à faire face à des normes chinoises. Alors, c'était un bon point de départ, un peu ambitieux, c'est peut-être un peu périlleux sur le plan géopolitique, mais en tout cas, sa logique était clair. En face, les Américains ont accueilli ce projet avec scepticisme d'abord. Barack Obama était extrêmement méfiant, comme son électorat, les démocrates sont pas du tout pour. Et en fait, il n'a évolué positivement que parce que les lobbies de l'agriculture et les lobbies de l'audiovisuel ont imaginé que c'était un moyen de mettre un coin, grâce au soutien de l'Allemagne, dans les politiques qu'ils abordent en Europe, la politique agricole commune et l'exceptionnalisme français en matière culturelle. Et à partir de là, on est entré dans un schéma extrêmement ambitieux dans lequel on a mis toutes les normes sur la table et j'ai donc pronostiqué que on aboutirait avec beaucoup de difficultés à un résultat tangible. Peut-être reviendra-t-on sur une autre question très sensible en matière dans ce traité qui est le tribunal arbitral. En tout cas, on voit à travers cette évocation des négociations commerciales ce qui a changé, c'est-à-dire effectivement le risque, par rapport à mon thème central, le risque de voir des négociations particulières se substituer, bilatéral en l'occurrence, se substituer au multilatéralisme. Et ça, je pense que c'est une évolution extrêmement dangereuse parce que, on parlera sans doute à un moment ou un autre de la Chine, mais il faut bien dire qu'il n'y aura pas d'ordre monétaire et d'ordre de gouvernance mondiale au XXIe siècle sans que la Chine soit pleinement reconnue pour ce qu'elle est.
C'était le but commun des Allemands et des Américains, en réalité, de se soustraire à la forme chinoise.
Voilà. C'est pour ça que je dis que le bilatéralisme transatlantique est dangereux par rapport à l'exigence qui serait de construire un ordre multilatéral.
François Buzon-Gletton.
Oui, on va d'abord là-dessus. Jacques Mistral, parmi les choses nombreuses qui vous rendent sympathique, il y a toujours un fond d'optimisme ou de positivisme dans vos propos. Et c'est à lui que je vais faire appel pour vous poser deux questions. La première est que nous voyons bien que l'économie mondiale connaît un ralentissement général de la croissance pour l'instant. C'est une porte ouverte que j'enfonce. Mais ce ralentissement général, il est non seulement le fait des pays avancés qui connaissent désormais une croissance faible et qui s'y installent, mais c'est aussi le cas des pays émergents ou déjà émergés, des grandes économies comme la Chine, la Russie, le Brésil, etc. Et nous sommes en train de nous installer finalement dans un sentiment général, à la fois chez ces pays et chez les pays développés, de désespérance, c'est-à-dire de manque d'espoir, véritablement. On voit très bien l'inquiétude des classes moyennes, le développement des inégalités et ce sentiment général que la croissance n'est plus la caractéristique principale du développement de nos sociétés. Alors il y a même des penseurs économiques comme Larry Summers qui disent qu'il y a « secular crisis », c'est-à-dire la crise tous les 100 ans, une crise de croissance profonde. Alors je me tourne justement vers votre optimisme fondamental pour vous demander si vous partagez ce sentiment. Est-ce que nous entrons dans une nouvelle ère caractérisé par la croissance faible et dont nous ne sortirons plus. C'est ma première question. Et la seconde est liée à la première, c'est que vous faites souvent dans vos articles ou dans vos propos une analogie avec la situation des années 30, entre la situation actuelle et la situation des années 30. Crise de croissance, en effet, inquiétude des classes moyennes, nous l'avons dit, développement des inégalités, montée des protectionnismes, que l'on voit vraiment monter partout. On le voit avec le TAFTA en Europe pour l'instant, mais on le voit surtout aux États-Unis, où finalement, à part Obama, plus personne ne se prononce en faveur du libre-échange. Partout, les populismes prospèrent. Monsieur Trump surfe sur sa vague en disant « America first », et c'est une vague populiste de première grandeur. Et l'une des raisons à tout cela, c'est l'absence de gouvernance mondiale, au fond. Et vous appelez, à juste titre, à une meilleure gouvernance mondiale. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais qui dit gouvernance dit aussi de plus en plus de régulation, des injections de doses de plus en plus fortes d'orthodoxie financière, qui, à leur tour, peuvent nourrir ces populismes. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Comment conjurer ce spectre de la montée des populismes?
Jacques Mistral.
Oui, alors là, c'est...
J'ai dit Jacques Mistral avec un ton sépulcral pour encourager votre optimisme. C'est que j'ai repensé à cette définition qu'on donnait dans les camps soviétiques d'une discussion entre l'optimiste et le pessimiste. Et le pessimiste disait, c'est épouvantable, ça pourrait pas être plus mal. Et l'optimiste disait, mais si,
il peut toujours être plus mal. La meilleure définition, c'est celle de Billy Wilder, qui est en 1940, les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood.
Jacques Mistral.
Alors, les deux questions, en fait, sont liées et je suis heureux que vous m'ayez, quand je servais à vos côtés, que vous m'ayez trouvé toujours positif, c'est bon signe plutôt.
Moi, j'ai mobilisé ces qualités.
Exactement. Mais c'est que vous n'avez pas perçu le fond d'inquiétude qui me ronge et que je tâche de camoufler justement en faisant des propositions, même si elles ont, si on leur reproche d'être teintées d'idéalisme. Pour ce qui concerne la croissance, je vais vous décevoir parce que je pense que effectivement nous devons nous préparer à une période de croissance modérée. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, depuis que j'étais jeune économiste et que je participais avec Robert Boyer aux travaux de l'école dite de la régulation, j'ai étudié la question des cycles longs et je pense que les cycles longs, bien qu'étant dans la littérature économique une partie jugée assez marginale et peu enseignée, parce que peu précise et pas du tout formalisée, cette théorie des cycles longs nous apprend beaucoup de choses et capte une partie des réalités historiques avec lesquelles il serait dangereux de ne pas avoir conscience. Donc, il y a une théorie des cycles longs. Il y a ensuite des cycles plus courts et je vois la situation dans laquelle nous nous trouvons comme étant la fin des derniers cycles courts qui nous ont donné des souffles d'air. Le cycle long vient de l'après-guerre, le fordisme, jusqu'aux années 80. Il y a eu ensuite un cycle intermédiaire avec la bulle Internet, les années 90, une période de prospérité mondiale, de croissance, de nouveau, plus faible, mais quand même réelle. Et puis il y a eu le dernier petit cycle poussé en avant par la Federal Reserve, Alan Greenspan, qui a été le cycle du logement américain qui nous a poussé dans la crise de 2007-2008. Alors je me garderai bien de qualifier cette crise de crise finale, mais en tout cas elle marque le terme d'un enchaînement de cycles qui avait maintenu cette perspective de croissance et ces espoirs que vous évoquez, comme l'ont été l'acquisition de logements dans des conditions extraordinaires sous le président Bush. Alors tout ceci, d'une certaine manière, est fini et effectivement, les inquiétudes maintenant sont présentes sous la plume des économistes les plus sérieux. Vous avez cité Larry Summers, excès d'épargne, disons, et moi, avec cette référence au cycle long, aux idées schumpeterienne, je fais couramment allusion aux travaux de Robert Gordon qui, pour des raisons liées aux caractéristiques des technologies modernes, lui aussi nous invite à réfléchir à une organisation sociale et à des politiques publiques qui soient adaptées au manque de stimulants en matière de croissance. Alors, passer de là à la crise des années 30, comme je le disais tout à l'heure à propos de 2007-2008, il faut se garder d'aller trop loin dans les similitudes. Celle que vous citez est manifeste et à la fois très importante et très inquiétante, c'est le populisme. Peut-être vais-je vous satisfaire en étant en donnant crédit à ma réputation d'optimiste en observant la chose suivante. La grande différence politique que je vois entre les années 30 et la période actuelle, c'est le fait qu'il n'y a pas d'ennemis déclarés de l'économie ouverte. Je veux dire par là qu'il y a d'intenses mouvements de protestation partout, énormément de mécontentement, on le voit aux États-Unis, en Europe, bien sûr, mais il n'y a pas, pour l'instant, de tribuns qui montent sur des estrades pour réunir des foules entières.
Madame Le Pen, quand même.
Oui, mais entre la candidature de Madame Le Pen et la sortie de l'euro, oui. Je pense qu'il y aura une certaine distance parce que l'électorat de Madame Le Pen est un électorat vieillissant et je le suspecte de préférer avoir des retraites payées en euros que des retraites payées en francs de Madame Le Pen. La distinction entre la zone euro et le processus d'Union européenne est, je crois, très importante sur ces questions. En tout cas, à l'échelle mondiale, en élargissant Madame Le Pen, alors pour le coup, puisque j'étais dans les années 30, n'est pas encore Hitler, ni Florian Philippot. Par contre, et il n'y a pas non plus en face Staline et la révolution bolchevique. Ce que je veux dire, c'est que à l'échelle mondiale, les trois grands blocs ne sont pas antagonistes, ne développent pas des idéologies de conflit. Ils développent ce que j'appelle dans le livre des formes de capitalisme différentes. Ces capitalismes sont en concurrence, mais nous avons une forme de capitalisme communisme ou de communisme capitaliste, de red capitalisme, comme le disent certains ouvrages aux États-Unis. Évite que les interdépendances très profondes qui lient ces différents continents ne dégénèrent trop vite. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas dégénérer, j'en décris un scénario. Mais il n'y a pas de menace imminente, il n'y a pas de menace dans lesquelles les divergences d'intérêts économiques soient enflammées par des différences d'idéologie.
Nicole Nisotto.
Oui, je voudrais revenir sur le TAFTA. Et la crise du multilatéralisme qui vous inquiète à juste titre, je crois. Le multilatéralisme a été la grande idéologie positive, enthousiaste de l'après-guerre froide, des années 90 jusqu'aux années 2000. Aussi bien sur le plan politique, c'était le nouvel ordre mondial de George Bush père, que sur le plan commerciale avec les grands cycles de l'OMC, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique et commercial, le multilatéralisme n'était efficace. Les Européens, vous vous souvenez, avaient inventé cette phrase « effective multilatéralisme », le multilatéralisme efficace. Mais pour en revenir au TAFTA, moi je ne crois pas que le TAFTA soit une arme contre le multilatéralisme ou un mauvais coup contre les institutions multilatérales, c'est un constat. C'est la conséquence du constat de la faillite de l'OMC dans l'organisation du commerce mondial. Et donc du coup, ce que font les acteurs commerciaux, c'est qu'ils négocient en bilatéral, mais en grand bilatéral, c'est-à-dire des grosses masses, les États-Unis, l'Union européenne, le Pacifique, des accords commerciaux qui, au moins sur ces zones de grande ampleur, peuvent permettre une relance ou une croissance. Et deuxièmement, ce TAFTA et les autres traités qui ont été signés, à mon avis, sont de la part des États-Unis également une annonce des guerres commerciales futures. C'est à la fois un constat sur l'échec du multilatéralisme et surtout une préparation des guerres commerciales futures, et notamment contre la Chine. Ce qui est frappant dans la stratégie américaine, mais c'est là-dessus que je voulais vous interroger, c'est qu'il y a cette volonté d'encercler la Chine sur le plan commercial, monétaire, économique, avec le traité transpacifique d'un côté, dont la Chine est exclue, le TAFTA avec les Européens, dont évidemment la Chine est exclue, et de façon à produire au 21e siècle les normes occidentales du commerce mondial. Et donc le pouvoir sera non pas à celui qui dit la force, mais celui qui dit la norme, et les Chinois n'en seront pas. Alors comment vont réagir les Chinois, à votre avis ?
Jacques Mistral.
Écoutez, je crois que nous convergeons sur le point consistant concernant l'alternative bilatéralisme-multilatéralisme. Le bilatéralisme et met en péril l'organisation de solutions multilatérales, et il a été initié dans le budget politique que vous avez décrit, avec les deux traités en cours de négociation par les États-Unis. Je pense que ce sont des politiques qui vont dans la mauvaise direction. Elles vont dans la mauvaise direction parce qu'elles créent un climat de suspicion qui n'a pas besoin de cela. Je voudrais rappeler que la suspicion principale entre les États-Unis et la Chine, telle que je la vois à l'heure actuelle, c'est les menaces concernant la sécurité et plus précisément, je pense, l'inquiétude qui s'approfondit en Amérique de voir la Chine capable de mener une guerre cybernétique, c'est-à-dire par des moyens détournés, de mettre en péril les intérêts vitaux des États-Unis sur le plan économique et sur le plan militaire. Sur le plan économique et financier, cette politique, c'est un peu une politique de gribouille, parce que les deux continents sont très étroitement liés. Le financement américain, même si les besoins de financement américain, même s'ils se réduisent progressivement, restent importants et dépendent crucialement de la Chine. Quant à la Chine, l'évolution de l'emploi qui la préoccupe à un moment où elle arrive un peu au plafond de verre, dans un stade d'incertitude conjoncturelle, et plus que conjoncturelle, une incertitude sur sa capacité à évoluer vers un modèle de croissance plus autocentré, eh bien la Chine a un immense besoin d'accéder au marché étranger, en particulier au marché américain. Donc je vois dans cette affaire commerciale un peu une politique de gribouille. Est-ce que c'est à cela que se résume la relation non stratégique entre la Chine et les États-Unis et le reste du monde et la zone et l'Union européenne ? Je ne le dirai pas. Je voudrais à ce stade donc citer deux épisodes récents qui me semblent montrer que le multilatéralisme n'est pas mort. D'abord, contre toute attente, la COP21 a abouti à un résultat qui vaut ce qu'il vaut. Et ce n'est pas le sujet de la conversation ce matin, mais sans le surestimer, c'est un très brillant exercice diplomatique qui a permis de faire en sorte que sur ces sujets très sensibles, le président des États-Unis et le président chinois soient en mesure de parler et d'avancer en fonction de leurs priorités, de leur calendrier, etc., d'avancer à leur rythme et d'avancer dans la même direction. Donc ça, c'est un élément que je crois très important, au moins, et même un peu plus, au moins au titre du symbole. Sur le plan monétaire également, vous évoquiez les réformes du Fonds monétaire international, dont je pense qu'elles ne vont pas assez vite. Mais ces choses-là, pensons à la vitesse à laquelle se déroulent les réformes en France, pensons de même à la vitesse à laquelle se déroulent les réformes au Congrès des États-Unis. Donc les réformes dans des régimes politiques complexes et interdépendants comme les nôtres prennent toujours du temps. Donc le Fonds monétaire ne se réforme pas assez vite, mais il y a un signe extrêmement important qui se déroule cette année, qui va prendre date cette année, c'est le fait qu'avec la modification insuffisante, mais c'est un pas, avec la modification des quotas et le renforcement du rôle de la Chine, eh bien il y a aussi l'entrée de la monnaie chinoise, le renminbi, dans le panier des monnaies constituant le DTS. Alors je ne vais pas être long sur cette question, mais le commentaire bref, c'est de dire
que... c'est les droits de tirage spéciaux.
Les droits de tirage spéciaux qui sont une monnaie artificielle, composite, gérée depuis les années 60 par le Fonds monétaire international, qui sert peu et auquel je voudrais voir jouer un rôle plus important. Et cette monnaie est constituée d'un panier de monnaie, donc du dollar, de l'euro, du yen, de la livre. Et il a été accepté après plus... 3 années de négociations. L'idée a été lancée pour la première fois à Nankin, au séminaire du G20 qui s'était tenu à Nankin. Et elle a été adoptée par le Conseil du FMI à l'automne dernier. Donc c'est un signe de reconnaissance, celui sur les quotas qui est insuffisant mais qui va dans la bonne direction, et celui du DTS que je crois très important. Donc le multilatéralisme n'est pas mort.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, il n'est pas mort, mais il se porte pas très bien quand même. Parce que quand on, je vois bien le signe sur la COP 21, je dois dire, je suis plus sceptique que vous parce que je trouve que c'est quand même un accord assez en trompe-l'œil, même si effectivement je conviens volontiers que c'est la marque d'une transformation et de la part de la Chine et de la part des États-Unis, d'une transformation de leur attitude de scepticisme traditionnel à l'égard du réchauffement climatique. Mais on voit vraiment pas comment ils auraient pu échapper à cette reconversion quand on voit la situation de l'environnement, par exemple, en Chine. Sur le reste, on voit quand même que les organisations multilatérales ont été, au cours des 15 dernières années, très sévèrement mises en cause. D'abord, commençons par l'OTAN. L'OTAN, ce qu'a marqué la guerre d'Irak, c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est que, selon l'expression de Rumsfeld, c'est la mission qui détermine la coalition et pas la coalition qui détermine la mission, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'OTAN, si je puis dire, parce que si on a une OTAN qui reste, mais si vraiment on a des systèmes de riposte à géométrie variable, on est sorti d'un élément de stabilité centrale. Sur le plan de l'OMC, on voit bien qu'il y a une remise en cause de l'OMC, et je trouve que Nicole avait, je crois, raison de pointer, Nicole Dinosto avait raison de pointer le fait qu'il y a une paralysie du système décisionnel. C'est d'ailleurs un peu, on a l'impression que passer de, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais passer de l'OMC à des organisations de négociation intercontinentale, c'est un peu comme si on passait de l'Assemblée générale des Nations Unies au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que, en réalité, on reprend les négociations commerciales avec des grands qui savent ce qu'ils veulent, etc., et qui sont prêts à négocier, alors que dans l'Assemblée générale, c'est évidemment n'importe que, puisqu'on a une nécessité d'unanimité, on a une prime énorme à tout ce qui bloque. Donc on avait quand même une vraie crise de gouvernance de l'OMC, dans laquelle s'est débattu avec beaucoup de courage et de talent Pascal Lamy pendant des années, mais il faut convenir que ça n'a pas donné de résultats. L'Union européenne, à laquelle, comme vous, je suis fondamentalement attaché, ne donne pas les signes d'une vitalité, d'une entente et d'une solidarité absolument ébouriffantes actuellement. Donc on est quand même dans des crises extrêmement graves, et ça me renvoie, et voilà ma question, à vos réflexions sur la mondialisation historique, celle qui date du 19e siècle, etc., où vous disiez, en réalité, on a à la fois émergence du libre-échange, de l'échange capitaliste et du pouvoir des nations, du pouvoir des États nationaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Comment fonder une légitimité à la régulation politique, une légitimité politique à la régulation internationale de l'économie ? Et notamment, je distingue dans les négociations sur le TAFTA quelque chose de très bizarrement contradictoires, puisque d'un côté, on a un repli, un refus du multilatéralisme que vous signalez, et de l'autre, on veut bâtir des organes arbitraux, etc., qui relèvent du multilatéralisme. Et là, on est un peu dans le corner, dans la contradiction.
Jacques Mistral.
Alors, vous soulevez beaucoup de questions, et je vais commencer par ce qui peut être l'origine d'un malentendu. Je ne dis pas que le multilatéralisme se porte bien. Je dis qu'il est adapté à la situation du XXIe siècle, et je conclurai par là dans quelques instants. Sur le passé, le multilatéralisme va mal pour une raison qui tient à l'état du monde au lendemain de la guerre froide, à la fin de la guerre froide, de la chute du mur du Berlin, et de la conclusion tout à fait erronée qui en a été progressivement tirée aux États-Unis et qui a trouvé son apogée sous le président Bush avec les interprètes que vous évoquiez, comme Dick Cheney ou Donald Rumsfeld, et qui a trouvé son idéologue en la personne de Francis Fukuyama, qui a donc vu dans la victoire définitive de la démocratie et du marché un petit peu l'équivalent du stade suprême de Lénine un peu plus d'un siècle plus tôt. Et cette politique que vous évoquiez à propos de l'OTAN en évoquant la géométrie variable, cette politique a conduit à une attaque systématique de l'administration américaine contre les organisations internationales. Encore, je parle sous le contrôle de François Bujon. Donc, quand pendant une décennie, voire plus, le principal acteur sur la scène mondiale, à une époque où la Chine, à la fin du XXe siècle, la Chine n'avait pas le poids qu'elle a aujourd'hui, l'euro n'existait pas encore, le monde était très différent de celui que ces deux événements, l'émergence de la Chine, la création de l'euro, ont créé. Lorsque, à cette époque-là, la principale puissance économique, technologique, financière et militaire mondiale est hostile au multilatéralisme, je n'ai pas de surprise à constater que le multilatéralisme ne marche pas bien.
D'accord.
On est d'accord, voilà. Alors, j'en viens à l'Union européenne. Donc c'est pour l'OMC, ce que je viens de dire s'applique, et j'observe que les procédures de l'OMC est en panne pour progresser, mais quand vous évoquiez l'idée que le bilatéralisme était un moyen de mettre un processus décisionnel sérieux dans le siège du conducteur, je ne le vois pas clairement parce que...
Je n'ai pas dit ça. Enfin, il y avait contradiction.
Il y avait contradiction. Bon, donc la contradiction n'est pas résolue. Mais je mets bien l'OMC parmi les organes pour lesquels un mécanisme de gouvernance plus efficace serait comme disait Nicole Nézotto, serait nécessaire. Alors, pourquoi, pour conclure sur ce point, pourquoi vous faisiez référence au pouvoir des nations au XIXe siècle, et je trouve toujours ces éléments ces références historiques intéressantes, parce qu'elles invitent à réfléchir, non pas pour dire que les problèmes vont se poser dans des termes semblables ou au contraire opposés, mais pour faire fructifier l'imagination. Et voici mon point de vue. De même que l'Union européenne s'est construite en grande partie grâce au jeu du moteur du couple franco-allemand, eh bien je crois que le multilatéralisme du XIXe siècle, ce n'est pas, contrairement à ce qui se lit le plus souvent sur la réforme des institutions internationales, ce n'est pas un multilatéralisme démocratique à 197, parce que ça, on en voit le résultat dans la COP21. Ça ne peut être qu'un trompe-l'œil, effectivement. C'est un processus décisionnel qui est absurde. Par conséquent, l'avenir du multilatéralisme, c'est qu'il y ait, non pas un couple, puisqu'il y en a trois, alors un ménage à trois, pour faire marcher le moteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Chine, les États-Unis et l'Europe seraient d'accord pour faire avancer l'organisation, les normes, les réglementations dans les différents domaines techniques, sanitaires, financiers, dans une direction commune, comme ça a été un petit peu amorcé avec le G20, eh bien je pense que c'est quelque chose qui est capable d'entraîner le multilatéralisme en péril dans une meilleure direction.
Le titre de votre ouvrage, Guerre et paix entre les monnaies, fait évidemment penser au titre du livre de Raymond Aron, Guerre et paix entre les nations. Mais il donne donc l'impression que les monnaies se sont comme libérées des nations. comme si on était rentré dans la mondialisation, dans un cycle où les États, les gouvernements ne contrôlent plus vraiment leur politique monétaire. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont beaucoup de citoyens, le sentiment que les gouvernements ne contrôlent plus rien, que ce sont des forces brutes du marché, les hedge funds, les investisseurs, peut-être maintenant les monnaies virtuelles, c'est-à-dire ces monnaies qui existent sur des machines dont on ne sait même pas où elles sont, les bitcoins, etc., etc., que tout cela crée le monde monétaire dans lequel on vit, qui échappe largement aux souverainetés, et en Europe particulièrement, depuis qu'on a perdu depuis que les États, 19 États, ont perdu leur souveraineté monétaire pour créer l'euro, ce sentiment d'un découplage entre le politique et le monétaire est un sentiment très fort qui, je crois, alimente beaucoup les besoins de protectionnisme, de refus de l'euro, de retour à la démondialisation, si tant est qu'elle est possible. Et donc, on est dans une espèce de décalage extrême entre les perceptions et à la réalité. Et vous donnez un peu l'impression que c'était plus simple au temps de l'hégémonie monétaire. Quand la Grande-Bretagne dominait au 19e siècle, il y avait une monnaie, la livre, c'était simple. Quand les États-Unis dominé au XXe siècle, il y avait une monnaie, le dollar. Aujourd'hui, on est rentré dans une espèce de trilogie, de trinôme monétaire, et que c'est ça qui est compliqué. Alors ma question est-ce que sur le plan monétaire, la pluralité est plus dangereuse qu'elle ne l'est sur le plan politique ?
Dans la foulée, François Bujon de l'Étang.
Oui, je ne suis pas si sûr, j'apporte une nuance, je ne suis pas si sûr qu'on soit entré dans le domaine de la triangulation monétaire en réalité. On s'y dirige. Mais quand je vois l'acharnement avec lequel les Américains continuent d'élaborer des scénarios pour l'éclatement de la zone euro, et quand je vois le point auquel ils n'ont jamais accepté finalement depuis le début que l'euro puisse venir, non pas comme un concurrent du dollar, mais comme une autre jambe pour la stabilité monétaire du monde, j'ai des doutes sur ce point. Ils sont obligés de composer avec l'euro, mais ils ne l'acceptent pas, ils ne l'intègrent pas dans leur schéma de gouvernance mondiale, ou du moins pas durablement. J'ajoute en outre qu'il y a des incertitudes concernant la Chine. Alors la Chine a pris récemment des décisions monétaires extrêmement importantes pour aider à l'internationalisation du yuan. Mais en réalité, on sait que les autorités monétaires chinoises ont avant tout à l'idée la stabilité du yuan, beaucoup plus que l'aventure que constitue son internationalisation. Donc, ce triangle, oui, bien sûr, on s'y dirige, mais avec une saine lenteur, d'autant plus que les Américains ne donnent absolument, Jacques Mistral, vous allez nous le confirmer ou nous dire au contraire si vous êtes en désaccord, mais n'ont aucunement l'intention d'abandonner le privilège du dollar. Finalement, vous vous situez dans vos analyses très souvent et notamment dans vos propositions, celles que vous formulez dans votre livre sur la gouvernance mondiale, dans la ligne gaullienne, la tradition gaullienne ou celle de Jacques Rueff, c'est-à-dire qu'il faudrait pour progresser dans la gouvernance mondiale que le FMI se renforce, que le DTS se développe, mais que la surveillance multilatérale se développe, mais tout ceci amène à l'abolition du privilège du dollar, finalement. Or, on n'en est pas là du tout. Et les Américains ne cessent, je n'ai encore jamais rencontré un candidat à la présidence des États-Unis qui ne fasse pas campagne sur la nécessité de maintenir un dollar fort. Donc, comment va-t-on se diriger, effectivement, vers une diversification du rôle des monnaies qui permettrait une meilleure gouvernance monétaire ?
Jacques Mistral. Je dis Jacques Mistral avec appétit car je mesure l'importance et la difficulté des questions. Donc alors, j'attends le...
Là, oui, et puis nous attendons de lui qu'il nous rassure.
En plus.
Vous achevez de construire ma réputation puisqu'après m'avoir présenté comme un optimiste impénitent, vous me mettez maintenant dans les pas de Jacques Rueff qui... aux yeux de plusieurs, ne paraîtra peut-être pas comme un compliment, mais je vais tout de suite vous rassurer.
C'est un peu contradictoire, il n'est pas très optimiste.
Non. Mais d'ailleurs, j'apprécie Jacques Rueff à beaucoup d'égards, en tout cas sur le plan monétaire international, là, je suis clairement très loin de lui, puisque il a été l'artisan, c'est vrai, auprès du général de Gaulle, de la réforme monétaire. Mais en France, il était à l'échelle internationale partisan de l'étalon or, dont je dis pique-pendre pour le 21e siècle, évidemment. Et le DTS est strictement l'inverse, puisque c'est la généralisation de l'idée de monnaie de crédit comme substitut aux disciplines impersonnelle et automatique de l'état d'or. Alors, effectivement, là, ces deux questions, ces deux interventions soulèvent beaucoup de problèmes autour de l'idée de souveraineté. Et c'est bien vrai que la monnaie est depuis longtemps, depuis toujours, pour ne pas dire depuis toujours, considérée comme le symbole de la souveraineté nationale. En tout cas, depuis qu'existent des souverains nationaux qui ont fait graver leur profil sur les pièces. Nicole Niesoto, vous avez parfaitement raison de souligner la frustration répandue à l'égard de mécanismes qui semblent nous entraîner et nous dépasser. Comme tout le monde, je suis forcé de les constater, on tâche de les analyser, on tâche de les comprendre, mais à la fin, la question est de savoir si l'idée que véhicule la souveraineté est mieux placée en étant partagée ou en étant défendue bec et ongles comme elle l'était au temps de Louis XIV ou de François Ier. Pour ma part, et vous évoquiez tout à l'heure mes sentiments européens, c'est vrai, je considère que la construction de l'euro est un instrument de souveraineté élargie. Il y en a une preuve absolument évidente pour qui a les moindres souvenirs historiques. Les monnaies européennes, nous nous glorifions de l'idée que la Banque de France était au service des intérêts nationaux et que elle incarnait la souveraineté monétaire du pays. Mais c'est une plaisanterie, évidemment, puisque le franc a été balayé de 10 ans en 10 ans par des crises monétaires à répétition et que dans la période récente qui précédait la construction de l'euro, elle a été en permanence, comme toutes les autres monnaies européennes, sous la tutelle implicite de la Bundesbank. On ne choisit pas ses voisins et par conséquent, je pense que, et c'est une des idées qui guidait le président Mitterrand dans la création de l'euro, c'est clair, c'est l'idée qu'il valait mieux à la fois pour les nations européennes dans leur rapport avec l'Allemagne et pour l'Union européenne dans ses rapports avec le reste du monde et avec les marchés financiers en particulier, il valait mieux avoir cette souveraineté partagée que de persévérer dans l'illusion que nous pouvions être souverains nous-mêmes. Donc je dois combiner ces deux analyses, celle qui consiste à dire qu'en démocratie, les sentiments populaires sont la force motrice et que s'il y a incompréhension et condamnation, eh bien, c'est un défi sérieux pour les responsables d'État, mais que d'un autre côté, nous devons, et ces responsables devraient également le faire plus vigoureusement, défendre l'idée que nous sommes dans cette position de mieux défendre notre souveraineté. Alors, quant aux États-Unis et à la Chine, qui ont eux aussi une idée assez précise sur l'exercice de leur souveraineté monétaire, je partage nécessairement l'interprétation que donne François Bujon de la position américaine. Je l'aurais dit dans des termes plus nuancés, n'est-ce pas ? Je crois quand même que, sans l'avoir jamais accepté fondamentalement, dans les milieux financiers en tout cas, une partie des responsables politiques américains acceptent l'idée qu'une Europe stable, et en particulier autour de l'euro, est une contribution à la stabilité internationale. Mais l'euro devenu alternative au dollar, comme vous l'avez dit, il faut voir que ce sont les Britanniques, ce sont la City, Wall Street, qui ont cherché à détruire l'euro à l'occasion de la crise des dettes. Et en l'occurrence, il est frappant, j'évoquais la stabilité du taux de change de l'euro pendant cette période, il est frappant de voir que d'autres acteurs à l'échelle internationale ont fait en sorte que ces agressions n'aboutissent pas. Et malgré le très grand péril interne de la zone euro, eh bien, l'euro est resté stable. Pourquoi ? À mon avis,
Non, lesquels de ces acteurs? C'est intéressant, voilà. Je crois, de le rappeler, voilà. Avant que vous poursuiviez.
La Chine, bien sûr. La Chine est à la manœuvre derrière cette stabilité. On en a eu un exemple, mais absolument frappant. C'est-à-dire que pendant l'occasion d'un voyage en Chine, comme pendant cette période, comme tout le monde, j'ai été interrogé par les Chinois sur les risques, la fragmentation de la zone euro, etc., et le danger que cela représentait pour les affaires du monde, que les investissements chinois en euros étaient en péril, etc. Et un jour, un journaliste du Financial Times, croyant au fil de conversations comme cela qu'il avait un scoop, a publié un article indiquant que la Chine allait diversifier ses réserves et abaisser la part des euros. C'est la seule fois où PBOC, la banque centrale chinoise, c'est la seule fois où elle a publié un communiqué pour dire que cet article était mensonger. Donc c'est une preuve, comme il y en a peu, de ce que effectivement ils n'ont pas dit ce qu'ils faisaient, mais en tout cas ils ont dit qu'ils ne faisaient pas cela. Voilà. Quant aux droits de tirage spéciaux, il y a deux façons d'évoluer dans cette direction. Je rappelle que les Chinois, le gouverneur de la Banque centrale de Chine, pour le reciter une deuxième fois en deux minutes, et de ceux qui ont évoqué cette question après Rueff et avant moi, il y a quelques années, pour suggérer que l'on aille dans cette direction. Et effectivement, les Américains ont mis cela de côté, disant que c'était
un sujet. Il était urgent d'attendre.
Et très urgent d'attendre. Mais ce que je décris dans le livre, c'est un scénario catastrophe dans lequel, à un moment donné, les Chinois détiennent une carte. Que les Américains n'en aient pas envie, c'est une chose. Mais le jour où les Chinois gavaient de dollars et craignant c'est cette épargne sur laquelle ils comptent pour faire face aux conséquences du vieillissement, craignant que ces actifs en dollars ne soient dépréciés, eh bien, ils ont un moyen, c'est de solliciter, de dire qu'à partir de dorénavant, leurs investissements en actifs internationaux seront faits dans une monnaie composite, dans un panier de monnaie, donc dans le DTS. Et c'est cela que je prends comme moment, point focal, qui serait un déclenchement de la guerre monétaire, parce que c'est effectivement... Alors, vous disiez que les évolutions sont lentes, je le disais moi-même aussi à propos des réformes du Fonds monétaire, parce que chaque étape est difficile. Ce qui est important, c'est que les étapes s'enchaînent dans la bonne direction, parce que sinon, d'erreurs, en incompréhension, en méfiance, eh bien, on peut en arriver à une situation dans laquelle on...
S'ils faisaient ça, les Chinois, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça ferait baisser considérablement le dollar, et donc ça atteindrait leurs propres réserves. Donc est-ce que ça serait pas contre-productif?
Jacques Mistral.
Oui, bien sûr. Oui. Mais je pense que les autorités chinoises sont absolument prudentes sur toutes ces questions-là. François Bujon évoquait l'internationalisation du yuan progressivement. Elle est très lente. Ce sont des expériences. Ils font tout pour apprendre comment marchent les circuits financiers internationaux. Mais je partage complètement son sentiment. Je suis absolument persuadé que la stabilité étant l'objectif numéro un, eh bien, on n'est pas prêt de voir un renminbi convertible.
Jacques Mistral, merci. C'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry, Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Valérie Lavalard. Cette émission nous a conduit des enjeux du monde arabe à la gouvernance monétaire mondiale, en passant par le bilan de Barack Obama, le développement de l'Afrique et la question du Bénin, les défis de l'Iran, la place de l'Allemagne, la défense française, les pandémies et la précaution. Où nous conduira l'année prochaine, nous verrons.